Il est 22h et vous écoutez Europe 1. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Today, the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.
Un cessez-le-feu en Syrie. La Turquie devrait mettre fin à son offensive après un retrait des forces kurdes. Le deal a été négocié par le vice-président américain Mike Pence, qui a rencontré le président turc. Mais tout n'est pas aussi simple. On rejoindra l'envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie dès le début de ce journal. Ça bouge aussi du côté du Brexit. Un accord a enfin été trouvé entre Européens et Britanniques, mais il ne convainc pas tout le monde. En tout cas, pas Jeremy Corbyn.
Ce nouvel accord va faire de la Grande-Bretagne une société dérégulée et va brader sa protection sociale aux gros groupes américains.
Majorité très incertaine pour adopter ce nouvel accord. La balle est désormais dans le camp britannique. C'est une énorme avancée, mais c'est pas gagné. On ira à Bruxelles et à Londres. Réforme des retraites, l'hypothèse d'un recul. D'autres options seraient sur la table, mais Édouard Philippe ne veut pas en dire beaucoup plus.
Oui, nous avons décidé de nous lancer dans une refondation du système des retraites. Mais il y a énormément de sujets sur lesquels nous n'avons pas choisi. Et nous avons dit, voilà des choses qui sont possibles. Mais il faut qu'on puisse en discuter.
Une marge de négociation, dit ce soir le Premier ministre dans le Jura. L'ouverture d'un hypermarché d'Angers le dimanche après-midi, retoqué par la justice. Olivier Samar nous expliquera pourquoi. Le bac 2020, les précisions de Virginie Riva sur le contrôle continu qui arrive cette année. Ce sont les élèves de première qui vont essuyer les plâtres. Dans ce journal également, l'un des derniers procès du nazisme. Un ancien gardien de 93 ans est actuellement jugé à Hambourg. Du gris et de la pluie demain encore sur une grande partie de la France. Une vraie journée d'automne. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et comme chaque soir, 22h20, votre rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Jean-Pierre Le Tartre qui est à la tête du Forum mondial pour une économie responsable. Autour de cette question, agir pour le climat, comment peut-on tous être des acteurs ?
Europe 1.
Et je vous le disais, l'actualité bouge ce soir en Syrie. Cet après-midi, le vice-président américain rencontrait le président turc, Jean-Sébastien Soldaini. Vous vous trouvez justement à la frontière turque. Alors c'était mal engagé, mais ils sont, semble-t-il, parvenus à un accord.
Oui, un accord pour 5 jours, 120 heures de cessez-le-feu, c'est comme ça que c'est présenté. Une pause dans l'offensive turque pour permettre dans le même temps aux forces kurdes de se retirer. Elles devront aussi rendre leurs armes et démanteler leurs positions. C'est exactement ce que voulait Ankara au lancement de l'opération militaire, repousser tout le monde à 30 km de la frontière. Dès que cette pause sera effective, les Américains lèveront leurs sanctions prises contre des ministres turcs. Un accord qui vient d'être validé par les forces kurdes, mais il est passé entre Américains et Turcs uniquement. Rien ne dit que Syriens et Russes vont l'accepter.
Les précisions de Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 à la frontière turque. Jamais depuis la guerre des Malouines en 1982, les députés britanniques n'ont voté un samedi. Ce sera pourtant le cas ce week-end. Dans 48 heures, ils vont devoir dire oui ou non à l'accord de Brexit trouvé à la mi-journée. Londres et Bruxelles ont fini par se mettre d'accord. Avant d'aller à Londres, on va prendre tout de suite la direction de Bruxelles. Isabelle Horry, ça y est, cette fois, on le tient enfin cet accord. Et même si tout n'est pas fait, on sent le soulagement.
Oui, et il y a des dirigeants qui l'ont montré de façon expressive, ce soulagement, notamment le Premier ministre luxembourgeois qui a poussé un grand ouf devant la presse quelques minutes après l'annonce ce midi. Emmanuel Macron lui est plus mesuré dans son expression, mais le président de la République est satisfait. Écoutez.
Cet accord répond aux objectifs qui étaient collectivement les nôtres. Côté européen, évidemment, de défendre l'intégrité du marché unique et nos libertés. Et du côté britannique, d'avoir justement toutes les garanties pour préserver leur propre intégrité, avec un souhait aussi aux côtés de nos amis irlandais qui était de préserver les équilibres politiques. Cet accord donc apparaît aujourd'hui comme un bon compromis qui permet de répondre à tous ces objectifs.
Alors l'accord donne un statut hybride à l'Irlande du Nord. En droit, après le Brexit, elle aura le même statut que le reste du Royaume-Uni. Mais dans les faits, elle gardera des caractéristiques de l'Union européenne pour les douanes ou les normes sanitaires et techniques. Une solution qui permet d'éviter le retour de la frontière entre les deux Irlandes. Les négociateurs ont aussi donné un droit de regard sur l'avenir de la province aux catholiques et aux protestants.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Enfin un accord donc sur le papier. On vient de l'entendre, c'est un soulagement. Sauf que si les députés britanniques ne valident pas ce texte, alors tout sera à refaire. Et c'est une hypothèse envisageable dans la mesure où plusieurs groupes parlementaires ont déjà annoncé qu'ils rejetteraient l'accord. Anaïs Cordoba, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Tout va donc se jouer samedi et la partie est loin d'être gagnée.
Oui, Boris Johnson aura besoin des voix de 320 députés pour faire adopter son accord.
Et pour l'instant, il en est loin. D'abord, il faut que chacun des 287 élus conservateurs de son camp le soutienne, ce qui n'est pas certain. Les 10 députés du parti nord-irlandais, eux, ont annoncé qu'ils rejetteraient cet accord à cause de ses conditions pour l'Irlande du Nord. Boris Johnson a donc besoin du soutien d'au moins une partie de l'opposition. Mais pas question pour le leader travailliste Jeremy Corbyn de voter pour ce nouveau deal.
Ce deal ne règle aucune des inquiétudes que nous avions déjà avec celui de Theresa May sur cette course à moins de réglementation et de protection sociale. Ce nouvel accord va faire de la Grande-Bretagne une société dérégulée et va brader sa protection sociale aux gros groupes américains.
Des députés travaillistes issus de circonscriptions pro-Brexit pourraient désobéir à Jeremy Corbyn et soutenir Boris Johnson. Quoi qu'il en soit, le sort de ce nouvel accord va se jouer à une poignée de voix samedi.
Anaïs Cordoba à Londres pour Europe 1. En tout cas, Boris Johnson se dit très confiant ce soir dans l'approbation de cet accord par les députés britanniques. Accord qui laisse assez sceptiques les milieux d'affaires et les marchés, tant son approbation est loin d'être acquise. On y reviendra dans notre page Bourse à la fin de ce journal avec Claire Lemaître.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Il est 22h06, merci d'écouter Europe 1. Après Emmanuel Macron, c'est au tour d'Édouard Philippe d'être sur le terrain pour un grand débat face aux Français. Grand débat sur les retraites ce soir à Lons-le-Saunier dans le Jura. Alors le gouvernement va-t-il revoir sa copie pour calmer la colère des syndicats qui appellent à une grève interprofessionnelle le 5 décembre prochain? Le plan B envisagé par le gouvernement serait de repousser les effets de la réforme à des générations ultérieures, au moins pour certaines catégories. La question a bien sûr été posée au Premier ministre ce soir qui ne s'est pas vraiment mouillé.
Je ne suis pas venu pour vous expliquer la réforme des retraites. Oui, nous avons décidé, comme d'ailleurs le président de la République s'y était engagé pendant sa campagne, de nous lancer dans une réforme et peut-être même une refondation du système des retraites. Mais il y a énormément de sujets sur lesquels nous n'avons pas choisi. Et nous avons dit, voilà des choses qui sont possibles, mais il faut qu'on puisse en discuter. Pour prendre en compte des questions, le cas échéant des propositions, en tout cas des positions ou des questionnements que vous avez et que vous voulez formuler. On ne se lance pas là-dedans simplement pour le plaisir. Parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois qu'on touche aux retraites, on suscite une forme d'inquiétude. Ça ne nous a pas échappé.
Édouard Philippe annonce le saunier dans le Jura ce soir au micro Europe 1 de Claudia Bertram. Les députés qui examinent le budget 2020 ont donné leur feu vert aujourd'hui à l'augmentation du prix du gazole pour les transporteurs routiers, 2 centimes par litre. Valider également le durcissement du malus automobile sur les véhicules polluants et l'augmentation de la taxe Chirac sur les billets d'avion imposés à tous les vols partant de France, sauf ceux à destination de la Corse ou de l'Outre-mer. À propos de taxes, la guerre commerciale menée par Donald Trump va prendre demain une autre dimension avec l'entrée en vigueur de taxes qui vont toucher la France et toute l'Union européenne d'ailleurs. 7,5 milliards de dollars de tarifs douaniers sur nos produits européens exportés vers les États-Unis. Ça va toucher nos vins, nos fromages, mais aussi l'aéronautique. Et ça passe mal, Emmanuel Dutheil.
C'est inadmissible de taxer nos entreprises comme ça. On a beau se défendre, les Américains ne veulent rien entendre, regrette-t-on au ministère de l'économie. En plus, quand vous regardez ces taxes américaines sur les produits européens, vous vous rendez compte qu'ils viennent taxer comme ça des secteurs avant tout symboliques. Les olives chez les uns, le vin chez nous, déplore-t-on à Bercy. Avant d'ajouter, c'est tout simplement lamentable, ça va pénaliser nos entreprises. Mais côté français et côté européen, on compte bien se défendre. Quitte à ne pas réussir à leur faire entendre raison, on va nous aussi, dans les mois à venir, taxer les entreprises américaines. On attend de savoir ce que va nous permettre de faire l'Organisation mondiale du commerce, mais on va taper très, très fort, promet-on, dans l'entourage de Bruno Le Maire. Paris qui parle d'un montant de taxes qui pourrait avoisiner les 10 milliards d'euros. C'est plus que les taxes américaines, tentons de se rassurer. En attendant, dans les vignobles et notamment dans le Bordelais, on craint fortement l'impact de ces taxes américaines.
Et Emmanuel Dutheil, que vous retrouverez d'ici 15 minutes pour son interview éco. Il reçoit ce soir Jean-Pierre Letartre, qui est à la tête du Forum mondial pour une économie responsable. C'est une décision judiciaire qui était très, très attendue. Elle concerne l'ouverture d'un hypermarché casino à Angers le dimanche après-midi. Le groupe pensait avoir trouvé la parade. Comme il n'avait pas le droit de faire travailler ses salariés, eh bien il faisait appel à un prestataire extérieur et n'ouvrait que des caisses automatiques. Olivier Samar, le tribunal de grande instance d'Angers, a jugé cela illégal.
Oui, la société prestataire qui employait des animatrices chaque dimanche après-midi depuis le 25 août va devoir cesser cette activité sous peine d'une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée. Le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers a en effet considéré cet après-midi que cette activité n'est pas légale. La société en question appartenant à un secteur, l'événementiel, dans lequel le travail récurrent le dimanche après-midi n'est pas autorisé.
Du coup, Olivier, que va faire Casino? Est-ce que ça compromet leur projet d'ouvrir le dimanche après-midi?
Non, le groupe Casino que nous venons d'interroger affirme que ce jugement ne remet pas en question l'ouverture de son hyper danger le dimanche après-midi. Il restera ouvert dès dimanche prochain. Simplement, les animatrices de la société prestataire ne seront plus là. Seuls resteront les vigiles. Le jugement rendu cet après-midi ne les concerne pas. Les clients du magasin pourront donc continuer à faire leurs courses après 13h, mais ils devront se débrouiller tout seuls pour payer leurs achats via les caisses automatiques. Casino estime qu'ainsi redéfini, le dispositif pourra fonctionner. Ça fait 6 dimanches que cet hyper danger ouvre le dimanche après-midi. Les clients sont maintenant habitués. Il n'est plus nécessaire de faire appel à des animatrices qui n'étaient là que pour amorcer ce changement. Une position que condamnent fermement les syndicats, très en pointe depuis le début contre l'ouverture du géant Casino d'Angers le dimanche après-midi.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Et on voulait également ce soir vous parler du bac. Alors c'est pas pour tout de suite, c'est vrai, on a le temps. Eh bien oui et non, parce que vous savez que le contrôle continu arrive dès cette année pour les élèves de première. On en sait un peu plus sur les modalités pratiques. Virginie Riva, les consignes viennent d'arriver dans les lycées et ça va démarrer dès janvier.
Oui, et les élèves vont devoir essuyer les plâtres. Dès janvier, ils passeront des épreuves qui compteront pour un tiers de leurs notes pour le bac en première, uniquement sur quelques matières, histoire, géographie et langue vivante pour la première session. Puis, en avril, pour la deuxième, de nouveau histoire géo et langue, mais aussi l'une de leurs spécialités. Ces épreuves, elles vont pouvoir avoir lieu dans la salle de classe habituelle, sur leurs heures de cours, avec leur professeur habituel comme surveillant. Mais malgré tout ça, c'est une pression supplémentaire pour Alexia, élève en première au lycée Racine à Paris.
On se dit que tout se joue depuis la première, donc ça nous met encore plus de stress et que en fait tout va se jouer sur 2 ans au lieu d'un. Puis les coefficients aussi sont élevés, donc ça met un peu plus de stress qu'avant, quoi.
Tous les élèves en France n'auront pas les mêmes sujets, mais afin de garantir au mieux l'égalité, chaque sujet sera pioché dans une banque de données nationale. Les copies seront anonymisées, scannées, puis directement corrigées en ligne par les correcteurs. Des correcteurs qui peuvent être des professeurs du lycée de l'élève, mais pas l'un de ses enseignants. Et en cas de trop grande disparité dans les notes entre lycées, il y aura des commissions mises en place pour les harmoniser.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et en Catalogne, après les violences de ces derniers jours, des dizaines de milliers d'indépendantistes poursuivent leur mobilisation contre la condamnation de leurs dirigeants par la justice espagnole. Des étudiants sont en grève, des routes de nouveau coupées et des milliers de personnes parties de plusieurs villes ont l'intention de paralyser la région demain et de rejoindre Barcelone. Le prochain sommet du G7, prévu l'an prochain aux États-Unis, aura lieu dans un des clubs de golf de Donald Trump en Floride. L'idée qui avait été défendue sans complexe par le président américain lui-même lors du dernier G7 à Biarritz avait suscité une levée de boucliers, beaucoup d'interrogations sur de possibles conflits d'intérêts. Précision importante, la question du réchauffement climatique ne sera pas à l'ordre du jour de ce sommet. L'actualité, c'est aussi en Allemagne, l'ouverture d'un des derniers procès du nazisme, celui d'un homme de 93 ans qui comparaît depuis ce matin à Hambourg. Lors d'Autriche, il était gardien d'un camp de concentration en Pologne et c'est en chaise roulante qu'il comparait.
Oui, en chaise roulante et le visage caché derrière un dossier rouge, tardivement gagné par les remords, il a seulement exprimé par la voix de son avocat que ce qui s'est passé dans ce camp lui faisait de la peine. Mais pour le procureur, cet homme, Bruno Day, était un des rouages des camps de la mort. Pendant 8 mois, entre fin 1944 et début 1945, il était le gardien du camp de concentration de Stutthof, dans le nord de la Pologne, le premier camp nazi construit hors d'Allemagne. Il avait alors 17 ans, il a tout vu, tout entendu des crimes qui ont eu lieu. Il est impliqué de près ou de loin dans la mort de 5000 personnes selon le parquet et il a notamment emmené des dizaines de prisonniers jusqu'à la chambre à gaz. Et lorsqu'il a eu la possibilité d'aller combattre sur le front de l'Est, il a préféré rester au sein de ce camp polonais. Alors ce procès doit durer 2 mois. Ces dernières années, l'Allemagne a jugé et condamné plusieurs anciens SS pour complicité de meurtre. Mais en réalité, une toute petite partie des nazis qui occupaient des postes élevés dans la hiérarchie ont été poursuivis et c'est pourquoi les tribunaux allemands poursuivent désormais aussi les gardiens de camp pour complicité de meurtre. Mais pour des raisons de santé, aucun des condamnés n'est jusqu'ici allé en prison.
Les précisions de l'ordre d'Autriche pour Europe 1. Record battu pour un tableau du peintre français d'origine russe, Nicolas de Staël. Son œuvre monumentale, Parc des Princes, a été adjugée 20 millions d'euros lors d'enchères organisées à Paris par la maison Christie's aujourd'hui. Sur cette immense toile, on distingue un match de foot nocturne stylisé. François Hollande change de registre. Il s'apprête à signer un livre pour enfants consacré à la République et au fonctionnement des institutions. 64 pages d'explications pour les plus de 5 ans et ça sortira en janvier. Les amateurs de tennis sont aux anges. Roger Federer a confirmé aujourd'hui qu'il jouerait le prochain Roland-Garros. Ça fait 3 ans que ses fans français étaient privés de sa présence, soit parce qu'il était blessé, soit parce qu'il préservait ses forces. Je ferai Roland-Garros, dit-il, mais je ne jouerai probablement pas beaucoup avant. Kylian Mbappé, lui, est toujours incertain. L'attaquant star du PSG ne débutera peut-être pas le match contre Nice demain soir. L'entraîneur parisien, en tout cas, laisse planer le doute. Mbappé, qui se plaint toujours de la cuisse depuis la fin août, il n'a pu jouer que 2 matchs. Et puis l'Ajax Amsterdam se déplacera sans ses supporters pour sa prochaine rencontre de Ligue des Champions à l'extérieur, le 5 novembre, à Chelsea. Le club est sanctionné par l'UEFA pour des dégâts à Valence au stade Mestalla, provoqués par ses supporters et pour le mauvais comportement de son équipe. Et on jette un œil tout de suite sur la météo.
N'adaptez plus vos pneus aux conditions climatiques. Ce sont vos pneus 4 saisons Hankook qui s'adaptent à la route. Hankook vous présente la météo.
Anissa Adadi, demandez le programme. À quoi faut-il s'attendre pour demain, Anissa ?
Bah c'est toujours un peu le même programme, hein, Isabelle. C'est vrai que là, on est sous un ciel très gris depuis plusieurs jours. Et bien, dans la moitié nord, encore beaucoup d'averses. De la Bretagne aux Ardennes demain, du Poitou-Charentes au centre, les averses seront assez fréquentes. Dès le lever du jour, il va vous falloir un parapluie. Dans le quart nord-ouest, le vent souffle très fort avec ces averses. Il y a des rafales qui peuvent aller jusqu'à 80 km/h. De l'Aquitaine à l'Alsace, en passant par le Limousin, le Massif central, le Jura, la Franche-Comté. Là, les nuages épais vous donneront quelques averses dans la journée. C'est sur la vallée du Rhône, les Alpes et le littoral méditerranéen que les pluies seront les plus soutenues demain, avec même des orages localement forts. Soyez prudents. Les températures, elles sont stationnaires. 7 à 16 degrés le matin. Demain après-midi, il fera frais à Aurillac avec seulement 14 degrés. 17 à Paris, 19 à Bordeaux et Saint-Étienne et 22 pour Marseille.
La météo signée Anissa Adadi.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de Boursier.com, juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le responsable du Forum mondial pour une économie responsable. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h18, merci d'écouter Europe 1. Comme tous les soirs à cette heure-ci, on s'intéresse à la bourse et c'est avec vous ce soir, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui accueille avec prudence l'accord décroché sur le Brexit.
Oui, c'est une petite hausse, mais pas d'enthousiasme après cet accord. Le Dow Jones gagne un petit 0,09%, 27 026 points. Une hausse modeste aussi pour le Nasdaq, plus 0,4%, 8 157 points. Un accord a donc été signé entre Londres et l'Union européenne, mais les investisseurs savent bien qu'il sera très compliqué de le faire adopter par le Parlement britannique. Les marchés restent donc prudents malgré d'autres bonnes nouvelles sur le plan géopolitique et notamment le cessez-le-feu dans le nord-est de la Syrie. Les résultats d'entreprise ont animé la séance avec une bonne surprise, une bonne performance pour la banque Morgan Stanley. Le titre gagne 1,5%. De bons résultats aussi pour Netflix qui avance de 2,4%. Le nombre d'abonnés à la plateforme vidéo a rebondi au troisième trimestre. C'est une déception en revanche pour IBM, le groupe informatique chute de 5,5% ce soir. Le pétrole gagne 1%, il a accéléré ses gains après le cessez-le-feu en Syrie, $53,93 le baril à New York. Et puis l'euro remonte à plus de $1,11 entre banques.
Et le CAC 40 a lui terminé en baisse, l'accord sur le Brexit peine aussi à convaincre à Paris.
Oui, le CAC 40 a brièvement salué l'accord sur le Brexit à la mi-journée, mais l'enthousiasme est vite retombé et l'indice parisien perd finalement 0,42%, 5673 points. Pernod Ricard est sanctionné par les opérateurs. La publication des revenus trimestriels du numéro 2 mondial des spiritueux est en dessous des attentes du marché. Le titre chute de 4,2%. Et puis Faurecia plonge de 6,5%. L'équipementier automobile est pénalisé, lui aussi, par un chiffre d'affaires en dessous des attentes au troisième trimestre.
Et Publicis aussi termine dans le rouge.
L'agence Standard & Poor's qui évalue la santé des entreprises a baissé la note de long terme de Publicis. Situation compliquée pour le numéro 3 mondial de la publicité qui a revu à la baisse ses ambitions pour 2019 et pour 2020 la semaine dernière. Le titre cède 1,7%. Et puis l'opérateur télécom Iliad profite lui en revanche d'un relèvement de sa recommandation par JP Morgan. Il bondit de 3,8%. Ailleurs, en Europe, les marchés sont sceptiques eux aussi après cet accord sur le Brexit. Londres gagne 0,2% mais Francfort perd 0,1%, Madrid moins 0,5%, Milan perd 0,2%, Bruxelles gagne 0,4% et le CAC 40, lui, perd 0,4%, 5473 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Claire Lemaître de Boursier.com. Et tout de suite, C'est l'heure de l'invité éco.
L'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
Emmanuel Duteil, ce soir avec votre invité, vous voulez changer le monde.
Bonsoir Jean-Pierre Le Tartre.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête du Forum mondial pour une économie responsable, forum dont c'était la 13e édition et qui vient de se clôturer. Ça se tenait à Lille. Vous êtes avec nous en ligne justement depuis Lille. Le thème était « Comment donner à chacun le pouvoir de changer le monde ?» Alors au bout, on fait comment ?
Bah écoutez, on fait effectivement, on laisse à chacun la possibilité de changer le monde. Le titre était Ego Imperium. Au fond, chacun d'entre nous, par son changement de comportement, va contribuer à la nécessaire transition de nos sociétés, de nos territoires, de nos entreprises. C'était ça le thème. On avait d'ailleurs lancé en même temps un égoton, c'est-à-dire qu'on avait demandé à chacun de poster un engagement personnel. En 3 jours, on en a reçu plus de 800. Et on va continuer parce qu'on pense qu'effectivement, notamment la transition écologique, mais pas que, la transition aussi sociale, environnementale, elle passe aussi par, bien sûr, des mesures, une régulation, bien sûr, par les transformations des entreprises, mais aussi par les changements de comportement de chacun.
Oui, parce que l'idée que vous voulez mettre en avant, c'est que chaque petite action peut être finalement extrêmement importante.
On est tous d'accord qu'aujourd'hui, il y a une certaine urgence. Et que, au fond, si on est passé d'une phase de sensibilisation qui s'est bien accentuée, je dirais ces derniers temps, où je pense qu'aujourd'hui la sensibilisation à ces questions est forte, maintenant il faut accélérer. Et il faut accélérer en s'y mettant tous.
Mais ça veut dire quoi, accélérer en s'y mettant tous ? Vous dites, on a eu par exemple 800 contributions pour des idées. Quelles sont quelques-unes des idées qui vous ont le plus marqué sur ces 3 jours ?
Oh, écoutez, il y en a plein. Hein. Ça passe de la mobilité en vélo électrique, par exemple. Ça passe par des engagements sur la compensation de l'empreinte carbone qu'on peut personnellement générer. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut évaluer son empreinte carbone et compenser ou limiter, mesurer l'évolution de son empreinte carbone. Voilà, ce sont tous ces engagements divers et variés, à la fois mesurables. Hein. Je me suis personnellement engagé, je parlais du vélo électrique, de ne pas acheter de seconde voiture et de faire du vélo, et de faire mes déplacements à Lille en vélo électrique. Je me suis engagé à compenser mes déplacements en avion par des plantations d'arbres ou autres. Vous voyez, c'est un engagement. Et puis, je me suis engagé aussi à ce que ce forum se développe, continue de se développer et devienne le forum de la transformation des territoires avec une résonance internationale.
Alors ça, c'est un peu pour ce qu'on peut faire chacun d'entre nous. Ouais. Mais est-ce que le plus important, ce n'est pas aussi le rôle de chacune des entreprises ? Parce que vous disiez la régulation,
bien sûr,
tout ça, c'est
bien
important.
Sûr,
mais finalement, on voit
bien
que
sûr.
Finalement, nos entreprises, et notamment les entreprises françaises, n'ont peut-être jamais autant bougé en termes de développement durable
oui.
et plus largement de responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est que pour les entreprises, ce sujet de leur responsabilité sociale et environnementale est passé du bord au centre de leur stratégie. Aujourd'hui, c'est complètement intégré dans les opérations et la stratégie de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est une question de durabilité de l'entreprise. Aujourd'hui, pour recruter, pour vendre ses produits, le consommateur, le jeune qui veut rejoindre votre entreprise, veut savoir comment vous mesurez votre empreinte sur votre environnement, qu'est-ce que vous mettez en place pour limiter les effets négatifs de votre empreinte, parce que c'est un élément... Et donc, même les financeurs aujourd'hui, vous avez beaucoup de sociétés de capital investissement, de capital développement, qui aujourd'hui mesurent aussi la qualité de l'empreinte environnementale des entreprises et comment elle évolue. Donc oui, aujourd'hui, je dirais... le capitalisme a rejoint l'écologie, ou l'écologie a rejoint le capitalisme.
Et on est d'accord que tout ça, c'est assez récent. Vous avez été, vous,
oui.
aux avant-postes, hein, puisque vous étiez
oui.
encore quelques mois le grand patron en France du cabinet de conseil aux entreprises Ernst & Young. On va le dire très clairement, il y a une dizaine d'années, les entreprises affichaient des objectifs, mais c'était pour faire joli. Et là, véritablement, depuis
Exactement.
Un, deux ans, ça y est, enfin, il y a de vraies actions volontaires.
Oui, parce que c'est vraiment rentré, vous voyez, dans ce que j'allais dire, l'operating model, dans la stratégie d'entreprise. C'est vraiment passé du bord au centre. Et d'ailleurs, ce World Forum qui a été créé il y a 13 ans, y a contribué.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi aujourd'hui une obligation finalement, notamment pour les entreprises, parce qu'il y a la pression des ONG, il y a la pression des réseaux sociaux. On est obligé de tous bouger. Alors on en a peut-être envie, mais on est forcé de le faire.
Bien sûr qu'il y a une pression. Et la pression est nécessaire. Je ne suis pas du tout contre cette pression. On avait un débat là-dessus avec Bertrand Piccard, qui était un de nos intervenants pendant ces trois jours.
Le célèbre avionneur.
Oui, voilà. Bien sûr qu'on a besoin de cette pression et que cette pression y a contribué. Et tant mieux d'ailleurs, j'ai pas de... Vous savez, en fin de compte, les pressions sont quelquefois des éléments qui font avancer hein, les entreprises ou les États, les organisations.
Mais est-ce que ce n'est pas aujourd'hui finalement cette pression des ONG, ce regard des réseaux sociaux qui est malgré tout le plus efficace?
Je ne sais pas si c'est ce qui est le plus efficace, mais je pense qu'une entreprise, elle vit dans son environnement. Si son environnement lui fait une pression sur tel et tel élément, eh bien elle doit en prendre compte, elle doit en tenir compte, vous voyez. Et je pense que c'est ça qui a joué. Ce n'empêchera pas aussi un peu de régulation. Hein. Je pense que l'État a son rôle à jouer aussi. Hein,
Qu'est-ce que l'État peut faire? Augmenter les taxes? Ça, c'est utile pour forcer le mouvement?
Non, mais écoutez, sur la question de la taxe, oui, bien sûr, il faudrait une taxe carbone. Mais la question, c'est qu'il ne faut pas qu'elle s'ajoute à toutes les taxes qu'on a déjà. Au fond, j'aurais envie de dire, dans un pays comme la France, qui est un pays fort taxé, il faut réorienter les taxes vers les contraintes environnementales, mais pas augmenter les taxes pour les contraintes environnementales.
C'est à mieux utiliser les taxes qui existent déjà aujourd'hui. C'est ça que vous voulez nous dire, Jean-Pierre Letarte.
Exactement.
Eh bien, un grand merci d'avoir été notre invité ce soir, Jean-Pierre Letarte, ancien patron d'Ernst & Young en France, aujourd'hui à la tête du Forum mondial pour une économie responsable, dont c'était la 13e édition et qui se tenait jusqu'à ce soir à Lille. Un grand merci d'avoir été avec nous depuis Lille. On se retrouve demain, 22h20, sur Europe 1.
Merci à vous et à demain, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour gagner du temps. Plus besoin de se déplacer, imprimez vos timbres depuis votre bureau.
Europe 1.
Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Brexit, cette fois-ci c'est la bonne, s'interroge le journal L'Opinion, qui rappelle que si le gouvernement britannique et l'Union européenne ont trouvé in extremis un nouvel accord, reste à le faire ratifier. Brexit, un accord sur le fil, écrivent les Échos. Dernière chance pour un Brexit à l'amiable pour le Figaro. Aux Britanniques d'assumer enfin, écrit Laurent Baudin dans le journal L'Alsace. L'accord conclu à Bruxelles est loin d'être acquis ce samedi lors du vote à Westminster qui doit obligatoirement entériner les conditions du divorce. Là est toute la problématique du Brexit à travers la nécessaire validation de l'accord par le Parlement. Les Européens, qui n'ont pas demandé le divorce, se trouvent contraints de résoudre les contradictions du Royaume désuni qui ont abouti à la victoire du oui lors du référendum de 2016. À un moment ou l'autre, les Britanniques doivent prendre leurs responsabilités et cesser de faire porter à l'Europe un chapeau bien plus grand que celui de la reine. Dernier rounds, écrit pour sa part Christophe Bonnefoy dans le journal La Haute-Marne. De La Haute-Marne, il est possible, pour ne pas dire probable, que le document paraphé à Bruxelles aujourd'hui sera rejeté à Londres par le Parlement, sauf si le magicien Johnson sort de son chapeau les arguments qui font mouche, ou pour le moins un pouvoir de persuasion qu'il n'a pas réussi à avoir jusqu'à présent. Ce soir à Bruxelles, on dormira bien. À Londres, les prochaines heures seront immanquablement intenses en tractation. Et puis la photo d'une femme, de dos, portant un foulard, est à la une du journal La Croix demain, qui titre « Ce que le voile dévoile ». Le journal rappelle que depuis 30 ans, les crispations sont fréquentes autour du voile, mais aussi plus généralement à l'égard de l'islam. Remettre en question la liberté des femmes de porter ce voile apporterait la preuve attendue par certains que la démocratie libérale est un leurre, écrit Dominique Greiner. Incapable de tenir sa promesse d'honorer les différences, ce serait assurément faire le jeu des islamistes qui travaillent à saper la confiance dans la démocratie et ne se soucient pas de la cause des femmes. Celles-ci, instrumentalisées de part et d'autre, risquent d'ailleurs d'être les grandes perdantes d'une polémique qui n'est pas digne d'une démocratie. Voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous découvrirez demain matin dans vos kiosques. Il est 22h30 tout pile et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Et à tout à l'heure 23h pour un nouveau point sur l'info.
À tout à l'heure.